Si vous demandez à 10 Taïwanais qu'est-ce que ça veut dire d'être Taïwanais, vous aurez non pas 10, mais 20 réponses. Parce que les gens à Taïwan sont extrêmement mélangés. Et au niveau et ethnique, et linguistique, et religieux, et politique. C'est-à-dire que c'est très courant d'avoir une famille taïwanaise où les gens qui, par exemple, aujourd'hui ont entre 30 et 40 ans vous diront « Mes grands-parents, leur langue d'éducation, c'est le japonais. » Comme j'expliquais, pendant la colonisation, le seul système scolaire en fait en place et plus ou moins ouvert à tout le monde, c'était le système japonais. Ensuite, au niveau linguistique, c'est aussi très compliqué. Officiellement, la langue officielle de Taïwan, c'est le chinois mandarin écrit en caractères non simplifiés. À la différence de la Chine populaire, où c'est des caractères dits simplifiés. Mais ça s'arrête pas là. Même au niveau des langues chinoises, il y a le taïwanais, qui est une langue qui est beaucoup plus proche, par exemple, du vietnamien que du mandarin. Moi, je parle mandarin. Si vous me parlez en taïwanais, j'ai besoin d'un interprète. Par contre, si vous écrivez, je pourrais lire ce que vous écrivez. Et moi, je vais le lire en mandarin. Vous allez le lire en taïwanais, en cantonais, en hakka, une autre langue chinoise. Donc, à l'écrit, ça passe. À l'écrit, on peut dire que le chinois est plus ou moins une langue. Mais quand on passe à l'oral, et j'insiste aussi là-dessus, c'est pas des dialectes. Puisque la définition du dialecte, c'est qu'il y a quand même un niveau de compréhension, même si c'est en dessous de 50%. Ce sont vraiment des langues différentes. Et il faut comprendre aussi que le chinois mandarin a été imposé par les soldats en exil, enfin l'armée du Kuomintang en exil,
de Chiang Kai-shek.
Voilà, qui est arrivée de Chine continentale à Taïwan. Donc il y a aussi un sentiment de colonisation linguistique, puisque évidemment que Taïwan c'est un pays colonisé X fois, puisqu'il y avait d'abord les peuples aborigènes qui sont beaucoup plus proches par exemple de certains Philippins, ou même de certains Australiens aborigènes qui ont aujourd'hui, il y a 16 tribus qui ont leur langue, qui sont des langues qui sont beaucoup plus proches du Tagalog ou de langues australiennes. Évidemment, dans ces communautés, la plupart des gens ne parlent plus ces langues-là puisqu'il y a eu la colonisation japonaise qui a imposé le japonais, surtout pour des questions militaires. Puis il y a eu en 49 l'imposition du mandarin qui était une langue absolument étrangère, c'est-à-dire que pratiquement personne ne parlait le chinois mandarin en 49. Aujourd'hui, la langue officielle, c'est le chinois mandarin. Mais il y a maintenant une reconnaissance des autres langues chinoises, des langues aborigènes. Le japonais est présent, surtout pour des raisons maintenant aujourd'hui économiques et culturelles. L'anglais, évidemment. Et puis, il y a aussi de très grandes communautés de migrants qui viennent surtout d'Asie du Sud-Est. Donc, quand vous vous promenez à Taipei, mais pas seulement à Taipei, à Tainan, à Kaohsiung, dans d'autres villes, vous entendrez évidemment plusieurs langues chinoises. Vous entendrez du tagalog, de l'indonésien, du vietnamien. Et si vous avez de la chance, vous entendrez aussi des langues aborigènes. Et donc, cette identité ouverte et qui est tout le temps remise en question, ça fait vraiment partie du quotidien taïwanais. Et c'est aussi une façon de dire, nous sommes peut-être historiquement et culturellement, dans la culture classique, on peut dire chinois ou de tradition chinoise, mais nous avons vraiment une identité taïwanaise qui a à débattre, qui est complexe, mais qui n'a, on peut pas dire, rien à voir avec la Chine, mais qui est vraiment différente. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des enquêtes d'opinion à Taïwan depuis à peu près 30 ans, où on pose cette question qui est très sensible. On demande aux gens à Taïwan, est-ce que vous vous sentez d'abord chinois, puis taïwanais, uniquement taïwanais ou uniquement chinois, dans votre définition? C'est évidemment une réduction, mais bon, on peut comprendre. Les gens vous rencontrent, vous disent, vous êtes quoi? Vous êtes chinois? Vous êtes taïwanais? Et le nombre de gens qui placent leur identité taïwanaise au-dessus ou qui supprime même cette identité chinoise, ne cesse d'augmenter. Et c'est pour ça qu'on a des situations qui insistent en disant « Non, arrêtez de dire que nous sommes chinois, nous ne sommes pas chinois, nous sommes taïwanais, nous avons notre histoire, oui, qui est coloniale, mais nous en débattons et nous parlons d'autres langues. » Et donc, pour nous, la Chine, c'est un pays étranger. On n'a jamais été en Chine. On n'étudie pas l'histoire chinoise, on veut étudier l'histoire taïwanaise. Donc, on a vraiment une identité séparée, ce que rejette complètement Pékin.
Donc, quel est le mot employé quand on dit « nous ne sommes pas chinois » ?
Alors ça, c'est une autre boîte de Pandore, parce que le problème, j'ai beaucoup écrit là-dessus, c'est qu'il y a aussi un problème purement linguistique, c'est-à-dire que dans les langues européennes, dans toutes les langues, en tchèque, en français, en anglais, en russe, il n'y a pratiquement qu'un mot pour dire chinois, que ce soit l'appartenance ethnique ou culturelle ou même la langue, on dit le chinois. Quand vous passez à des langues chinoises, dans mon cas enfin le cas que je connais c'est le mandarin, mais c'est pareil en cantonais, pareil en taïwanais. Pour dire chinois, par exemple, l'identité ethnique, on a une douzaine de mots.
Seulement.
Voilà. Et donc chaque mot est codé en fait historiquement, politiquement et culturellement.
Connoté.
Voilà, complètement connoté. C'est-à-dire que dans une conversation même en mandarin, le fait de dire je suis chinois d'une telle façon en disant je suis huaren. Alors huaren, on peut dire c'est chinois global. C'est-à-dire je suis d'origine chinoise. Mais ça veut dire par exemple huaren, ça peut être quelqu'un de Singapour qui est d'origine chinoise. Ça peut être un Canadien chinois. Ça peut être un chinois de Chine, ça peut être un hongkongais, ça peut être un taïwanais. On se met d'accord sur le sens que on a des origines chinoises. Est-ce qu'on parle chinois et quel chinois? On peut en discuter, mais disons qu'on se reconnaît comme ethniquement et culturellement relié à la Chine antique culturelle. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire ce mot si on le décortique?
Alors, roi, c'est un autre mot. C'est un peu, disons, pour traduire dans les langues européennes, ce serait un peu l'équivalent de quand on dit sinophone. Okay. C'est-à-dire, c'est un terme très général, orienté vers le passé, qui insiste surtout sur une espèce d'identité globale culturelle. Et ren, ça veut dire personne, être humain.
D'accord.
Voilà. Mais si je dis, je suis zhongguo ren, ça veut dire je suis, ces trois mots, les deux premiers mots zhongguo, ça veut dire Chine. Si vous dites ça à Taïwan, vous insistez sur le fait que vous avez un passeport de la République populaire de Chine et je viens de la Chine continentale.
Déjà politiquement.
Voilà. Je viens de l'autre côté, comme on dit en chinois taïwanais, Duyan, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive, parce qu'il y a le détroit de Taïwan. Voilà. Si vous dites, je suis taïwanais. Mais en même temps, voilà, taïwanren, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes de quelle langue, de quelle ethnie, et aussi de quelle appartenance politique? Donc, c'est très compliqué d'avoir ces conversations-là. C'est aussi fascinant parce qu'évidemment, une espèce de pauvreté linguistique dans les langues européennes, puisqu'évidemment, on ne fait pas partie de ce contexte-là. Donc, pour nous, c'est très réduit. Chinois, voilà, chinois, parce que c'est en opposition à japonais ou coréen.
C'est fascinant ces questions-là, mais on est pressé par le temps, hélas. Mais est-ce que le mandarin parlé par un jeune de Taipei, s'il va à Pékin, au bout de combien de mots ou de combien de phrases, celui de Pékin va reconnaître qu'il vient de Taipei?
Parfois, c'est juste un mot parce qu'il y a aussi, on va dire que le mandarin de Chine et le mandarin de Taïwan, quand c'est parlé, au niveau des mots, de la structure, de la grammaire, c'est à 90% pareil. Mais il y a aussi beaucoup de mots qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'on nomme, par exemple, certains légumes, certains fruits, avec des termes spécifiques qui sont... alors, si on est taïwanais, on va dire que c'est spécifique à la Chine. Si on est chinois, on va dire que c'est spécifique à Taïwan. On va pas débattre là-dessus. Mais il y a aussi une question d'accent, d'intonation et aussi de politesse, puisque Taïwan a fait partie du Japon pendant 50 ans. Donc, en fait, ça peut être détecté parfois en un mot, et en général en une phrase. C'est une combinaison du ton, de l'accent, l'emploi de certaines formes de politesse ou de certains termes qui tout de suite, si vous êtes chinois, je détecte que vous êtes taïwanais. Et bien sûr, vice-versa, puisqu'il y a aussi des Chinois de Chine populaire qui vivent. Bon, avant la pandémie, il y avait aussi du tourisme dans ce sens-là. Donc, les gens peuvent tout de suite détecter que vous êtes, et de la façon très polie pour éviter les mots... les termes politiques, et je pense que ça reflète vraiment justement cette subtilité, on dit vous êtes de l'autre côté de la rive. Donc évidemment, on évite de dire Taïwan, Chine, est-ce que Taïwan fait partie de la Chine, est-ce que voilà. Donc on parle en termes purement géographiques, et donc, vous êtes de l'autre côté de la rive, ce qui est une façon de dire vous n'êtes pas d'ici.
Il y a eu l'année dernière également le cas du rappeur YouTuber qui racontait son expérience. Alors, c'était passé par des monastères Shaolin d'abord, invité à venir en Chine, un jeune Taïwanais donc, et où il explique au bout d'un moment qu'on lui a lavé le cerveau et qu'en fait, il a été un influenceur au service du Parti communiste de Pékin pendant plusieurs années, avant de se rendre compte, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, comment sa prise de conscience est arrivée. Mais est-ce que vous, en tant que mandarinophone, dès que vous allez sur les réseaux sociaux, c'est flagrant? Dès que vous allez, je sais que vous faites également une émission sur YouTube avec une dissidente chinoise, c'est 24 heures sur 24, la propagande chinoise en ligne?
Oui, ça fait partie en fait de la guerre hybride, et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est parfois c'est pas très subtil, parfois c'est subtil. Cette année, on a eu le cas de aussi 4 influenceuses chinoises mariées à des Taïwanais ou divorcées de Taïwanais mais vivant à Taïwan de façon légale, qui reprenaient le discours de Pékin, mais à un niveau assez, on va dire, assez violent, et qui en fait ont été renvoyées par les autorités taïwanaises en Chine. Alors ça pose énormément de questions. C'est des cas, il faut faire très très attention. C'est pas simple parce qu'il y a des questions aussi de droits humains, puisque par exemple ces femmes donc étaient mariées ou sont mariées à des Taïwanais, ont des enfants, et elles ont été, on peut dire, déportées par les services d'immigration.
Expulsées.
Voilà, par les services d'immigration taïwanais. Au nom de l'atteinte à la sécurité nationale. Parce que dans leur discours, elles parlaient d'une réunification et en disant que la réunification peut-être va se passer par des moyens militaires. Donc ça, c'est, disons qu'on dépasse une certaine ligne rouge. Et ça, évidemment, il y a eu des débats aussi très compliqués à Taïwan, parce que Taïwan reste vraiment une des démocraties les plus avancées en Asie. Donc évidemment, il y a tout un des problèmes par rapport à la liberté d'opinion, la liberté d'expression, les droits humains, le droit à la famille, etc. Mais ça, c'est exploité évidemment par, vous imaginez bien, par Pékin, puisque ces 4 femmes ont été traitées en héroïnes, en patriotes, même si après, elles ont un petit peu disparu de la circulation aussi de retour en Chine. Donc on a beaucoup de scandales, d'histoires compliquées d'espionnage, d'infiltration, et de gens qui, soit par intérêt pécuniaire et vraiment financier, sont d'accord pour faire le travail de Pékin. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont, surtout des jeunes, qui sont un peu innocents, parce qu'évidemment, cette guerre hybride, elle prend des formes parfois assez crues, mais il y a aussi des formes très sophistiquées qui font appel à un espèce de, justement, de patriotisme, on va dire... culturel. Enfin, nous sommes tous les descendants du dragon. La Chine, c'est quand même un grand pays. Il y a aussi un aspect, et ça, c'est souvent rarement mentionné, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que même si Taïwan, c'est une société assez prospère au niveau des salaires, si on compare à la Corée, au Japon, qui sont quand même les pays immédiats, il y a aussi une culture confucéenne qui partage. Les salaires, surtout des jeunes à Taïwan, sont vraiment très bas. C'est-à-dire que c'est souvent autour de 1 000, 1 500 euros pour des professionnels qui, s'ils avaient le même boulot en Corée, au Japon, probablement auraient le double. Une façon d'avoir pratiquement le double, c'est d'aller en Chine continentale. Ça fait partie justement de la guerre hybride, c'est-à-dire que les Taïwanais qui viennent travailler en Chine, on les traite très bien, on leur dit voilà, vous êtes maintenant dans les bras du grand frère, on vous aide, on va vous aider.
On leur donne des papiers d'identité aussi, apparemment.
Alors, on peut leur donner aussi des papiers d'identité chinois, qui est une violation de la loi taïwanaise. Il y a de plus en plus de cas comme ça, mais surtout on leur offre une opportunité économique qui est en plus valable de retour à Taïwan. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes Taïwanais, s'ils ont fait un stage de 2 à 5 ans en Chine, c'est considéré comme une expérience internationale, puisque la Chine et Taïwan sont 2 pays, en tout cas du point de vue de Taïwan. Donc quand ils rentrent à Taïwan, souvent, il y a une promotion. Et donc, ça représente l'attrait d'aller travailler en Chine. Mais cet attrait-là, maintenant, justement, comme vous le disiez, il y a quand même toutes ces lois anti-sécession en Chine populaire qui font que si vous vous exprimez, puisque Taïwan reste une société libre et démocratique, avec des réseaux sociaux comme partout, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer son gouvernement, on peut critiquer aussi la Chine. Évidemment, les Taïwanais sont habitués à cette liberté d'expression. Donc parfois, quand ils sont en Chine populaire, ils oublient un petit peu. Ils sont parfois aussi présents sur les réseaux sociaux chinois qui sont censuré à la seconde près, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc il y a des gens qui se font emprisonner au nom de cette loi anti-sécession. Donc ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'en fait cette politique chinoise ne fonctionne pas très bien, puisque le nombre de Taïwanais qui vit et travaille en Chine diminue d'année en année, surtout depuis la pandémie. Il y a eu vraiment un gros retour de Taïwanais. Et alors, beaucoup de Taïwanais, par exemple, se disent, on va venir en Europe, y compris en République tchèque. Moi, j'ai des amis Taïwanais qui sont venus en été faire un tour pour voir est-ce qu'on va vivre aux Pays-Bas, en Angleterre ou en République tchèque. Qu'est-ce qui nous offre le plus d'opportunités? Ce rapport-là entre la Chine et Taïwan est en train d'évoluer. Et pour beaucoup de Taïwanais, si la Chine c'était une option, ça devient une option un petit peu risquée. Mais c'est vrai qu'il y a des cas comme, par exemple, ces influenceurs qui, je pense, et par, disons, intérêt financier et un petit peu par pseudo-patriotisme, on va dire, chinois global. Nous faisons partie de la grande nation chinoise au niveau culturel. En plus, si je vais travailler en Chine, voilà, c'est bien pour ma carrière. Donc, ça reste actuel. Il y a des gens qui font ce choix-là, mais en même temps, il y a une prise de conscience de risque. On ne sait pas trop comment ça va se terminer.
Philippe Noubet, dans les raccourcis de la presse étrangère, parfois on décrit le Kuomintang comme un parti pro-chinois. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir? Et comment expliquer qu'une force politique qui représente quand même pas loin de la moitié de l'électorat soit défendre une telle politique?
C'est une question très compliquée dans le sens où je crois que la première chose qu'il faut dire et qui m'a beaucoup, non pas choqué mais étonné, c'est que très souvent en fait c'est un vote nostalgique et familial. C'est-à-dire, pour expliquer, c'est que le Kuomintang donc était en guerre civile contre le Parti communiste chinois en Chine continentale. Ils ont perdu. Donc, c'est toujours difficile de vivre avec un échec militaire.
Mao.
Voilà. Et donc, en plus, ils sont arrivés à Taïwan à partir de 45 jusqu'à 49 et un petit peu au-delà. Et ils ont imposé leur langue, leurs règles. Donc, ils étaient quand même assez mal vus par les populations chinoises non Kuomintang, et qui parlait aussi d'autres langues, évidemment aussi par les aborigènes, mais ça, on leur demandait pas leur opinion, comme toujours, dans les systèmes coloniaux. Donc, il y a une espèce de crise d'identité en 49, puisqu'on a perdu la guerre, on arrive sur un territoire qu'on dit qui nous appartient, mais on sait que quelque part, il nous appartient pas vraiment. Donc, on va rester entre soi. Et en plus, il faut quand même comprendre qu'évidemment, à l'époque, comme beaucoup d'armées qui ont perdu les batailles, qui sont en exil, il y avait toujours cet espoir de revenir et de regagner la Chine. Et cet espoir-là était nourri au moins jusqu'à la moitié des années 50. C'était un sujet tabou. Bon, maintenant, on n'a pas perdu la guerre, on a perdu la bataille, mais on va revenir, on va reprendre la Chine avec le soutien de nos alliés. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ça a créé une espèce d'obligation morale dans beaucoup de familles que si tes parents, et en général, surtout si c'est ton père qui vient de Chine continentale, qui a épousé, par exemple, une chinoise taïwanaise locale, tu fais quand même partie de la sphère Kuomintang. Donc, évidemment, tu vas voter pour le Kuomintang et on vote pour le Kuomintang à vie et pas question de négocier ça. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le parti d'opposition qu'on appelle le DPP, Min Jingdang, qui est le parti démocratique, qui m'expliquent que c'est par exemple, pour eux, c'est plus facile de dire dans leur famille qu'ils sont gays que de dire qu'ils ont voté DPP. Et il y a l'équivalent des dîners de Noël, évidemment, à Taïwan, c'est pour le nouvel an lunaire, qu'on n'appelle pas le nouvel an chinois à Taïwan, j'insiste, où, évidemment, les familles ne peuvent plus se parler, puisque un fils ou une fille, donc en général plus jeune, vraiment, ont cessé de voter Kuomintang, et soit le cachent, ou soit le disent, et donc, voilà, on devient un petit peu paria dans sa famille.
Et donc, la qualification de pro-chinois de ce parti?
Je pense que c'est un peu une réduction de dire ça. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, d'abord, il y a beaucoup de factions dans le Kuomintang, ça c'est clair. La façon la plus simple, c'est peut-être de dire qu'ils sont pour une intégration économique. Et c'est vraiment ça le débat, c'est-à-dire que beaucoup de Taïwanais du Kuomintang, même s'ils sont nostalgiques, même s'ils vont en Chine, ils voient bien qu'il y a une différence de niveau de vie, ils sont quand même habitués à une certaine liberté. Donc pour eux, ils prétendent qu'on peut avoir ce qui a complètement été un échec à Hong Kong, c'est-à-dire un pays de système, qui était la grande promesse faite par la Chine en 97.
Avec beaucoup de Hongkongais qui vivent désormais à Taïwan.
Exactement, comme exilés et surtout politiques. Et en disant, voilà, on peut faire du business avec la Chine, mais nous, on va garder nos avantages taïwanais. Et c'est cette illusion qui, je veux dire, on a malheureusement un exemple très concret, qui était supposé être le cas de Hong Kong, et ça a fonctionné plus ou moins pendant 10 ans, jusqu'au début du XXIe siècle, et ça s'est complètement effondré, il y a plus de liberté à Hong Kong. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste assez illusoire. Donc c'est un peu, on va rester taïwanais quelque part, mais on va bénéficier de la prospérité économique chinoise, on va faire des affaires, on va gagner de l'argent, mais on va maintenir notre société. Évidemment, il y a des courants plus conservateurs qui sont aussi anti-occidentaux, anti-woke, anti-protection de l'environnement, pour l'énergie nucléaire, etc. Donc c'est compliqué le Kuomintang, on peut pas le réduire. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi des abus du côté du DPP, il y a des chasses aux sorcières. Enfin, on n'a pas le temps d'expliquer toute la scène politique intérieure taïwanaise. Mais c'est assez compliqué. Et la dernière chose que je vais mentionner, c'est quand même assez intéressant, c'est que la nouvelle présidente du Kuomintang est une ancienne membre du parti de l'opposition. Donc je pense que ça veut dire quelque chose. Et vraiment, vraiment pour terminer, à Taïwan, il y a quand même de gros problèmes pour les jeunes, c'est-à-dire que comme partout, un petit peu en Europe, trouver un emploi, pouvoir acheter un appartement, même louer un appartement à Taïwan, à Taipei, parce que c'est là où se concentrent évidemment la plupart des jeunes, pouvoir se marier, avoir des enfants, ça coûte très cher. Donc souvent, on peut pas se l'autoriser. Alors après, évidemment, c'est la faute à qui? Ça, on peut en débattre. Mais ça explique aussi un petit peu qu'il y a quand même aussi du mécontentement du côté du DPP. Donc c'est pour ça, le Kuomintang, je pense qu'il faut quand même un peu nuancer.
Le rôle du crime organisé a été parfois relevé. Mm-hmm. Est-ce qu'on le perçoit quand on habite? Alors vous êtes analyste également, donc vous n'avez pas seulement l'expérience de la rue taïwanaise, mais c'est un facteur important, les triades.
Je pense que ça, c'est un peu ça relève du fantasme occidental. Ça concerne aussi le Japon. Les triades existent. Mais c'est pas quelque chose, par exemple à Taipei, qui est une ville, c'est une des villes les plus sûres au monde. Si vous laissez votre portable sur la table en café,
je parlais davantage de leur influence sur les syndicats et les partis, dont le Kuomintang et le DPP.
Il y a un quartier à Taipei où on sait qu'il y a une présence des triades. Moi, c'est un quartier où j'allais parce qu'il y avait des événements culturels, etc., très intéressants. Donc c'est pas, au niveau quotidien, on le ressent pas. Il y a pas un sentiment d'insécurité ou de menace. Moi, ce que j'ai relevé dans des études, en lisant ce que des experts, je suis pas absolument pas expert sur les triades, c'est que les triades ont servi de vecteur à l'influence chinoise. Mais c'est pas que les triades, c'est par exemple les temples locaux. Puisque au niveau religieux, Taïwan aussi, c'est aussi compliqué que la question linguistique. Donc c'est un pays qui a du confucianisme, du bouddhisme, mais aussi ce qu'on appelle un peu la religion locale. Donc c'est des temples très très locaux. Est lié aussi à une déesse de la mer qui s'appelle Mazu, dont le culte est partagé en Chine continentale et à Taïwan. Et c'est une présence très importante, ce qui fait que quand vous allez dans les quartiers et dans la campagne taïwanaise, vous verrez partout des temples en bois, surtout, avec toute une communauté de dieux, de déesses. C'est très compliqué. Tout ça se passe en taïwanais, donc c'est vraiment un monde à part. Mais ces temples, en fait, servent aussi d'endroits de charité. Et donc, on peut donner de l'argent, ils sont pas taxés. Et donc, il y a eu des recherches qui prouvent que la Chine a infiltré ces temples pour influencer les élections locales. Donc, il y a les triades, mais souvent, ça, parce que je pense qu'on le connaît à l'Occident, parce qu'il y a une espèce de mythe, c'est assez choquant, il y a toute la culture du tatouage, donc c'est visible. Mais ça relève un petit peu quand même du fantasme occidental. Mais par contre, il y a tout un courant d'infiltration et d'influence sur les élections qui passe par les temples locaux. Et ça, évidemment, c'est beaucoup moins visible et c'est beaucoup moins connu.
À tous ceux qui connaissent cette île, qui y résident ou qui y ont résidé, j'aimerais terminer l'entretien en demandant s'ils avaient à choisir un son, que ce soit de Taipei ou d'autres villes ou de la campagne que vous connaissez bien, qu'est-ce que vous aimeriez écouter de Taïwan?
Ça va peut-être vous surprendre, mais il y a quelque chose dont tous les étrangers qui parlent à Taïwan, qui vivent à Taïwan parlent, c'est le système de ramassage des ordures. Et moi, je trouve ça très, très bien. C'est tout un processus éducatif parce que il faut revenir à la géographie, au climat. Taïwan, c'est un pays tropical. Donc, si vous avez des poubelles publiques où vous laissez vos ordures, c'est sûr qu'il y aura une invasion de rats parce que c'est vraiment un pays hyper humide, très, très chaud. Il y a beaucoup d'animaux, d'insectes. Donc, ils ont changé les systèmes et c'est aussi sous l'influence japonaise. C'est-à-dire que c'est aux citoyens à jeter les ordures à des heures fixes tous les jours. Et en plus, comme c'est quand même le système taïwanais et ex-japonais, Quand vous arrivez, et, il faut passer par tout un système de training où on vous dit, par exemple, le lundi, c'est le papier. Le mardi, c'est le verre. Le mercredi, c'est le plastique. Après, il faut séparer, évidemment, ce qui est jetable et périssable de ce qui ne l'est pas. Et c'est tout un système éducatif par lequel on passe tous. Alors, il faut quand même aussi organiser sa vie, parce que bon, on vit beaucoup le soir, parce qu'il fait très chaud à Taïwan. Donc, il y a une vie nocturne qui commence assez tôt et qui finit assez tard, que ce soit au niveau culturel, même politique, les événements. On mange entre amis, on mange beaucoup dans la rue à Taïwan. Donc, il faut vraiment composer, avoir dans sa tête quel jour de la semaine, quel genre d'ordure on va jeter. Il faut pas manquer le camion ordure, donc parce que chaque quartier a un passage déterminé. Après, on peut aller un peu plus loin, on peut trouver ça. C'est pas toujours facile de communiquer aussi avec les gens qui travaillent aux ordures, parce que beaucoup, bon, évidemment, ne parlent pas anglais, ils préfèrent parler aussi taïwanais. Donc même quand on parle chinois, c'est pas toujours facile. Et pour en revenir au son, c'est qu'évidemment le camion à ordures qui passe a un son de cloche, qui est un peu l'équivalent, par exemple, du marchand de glace dans la culture américaine pop, qu'on reconnaît tous, qui a pas changé depuis, j'ai pas les dates exactes, mais je pense depuis 50 ans, qui a intégré à certaines chansons pop. Et en fait, moi, je suis tout à fait pour ce système-là, parce que c'est vraiment, ça vous oblige à réfléchir, en fait, à votre consommation. Parce qu'il faut préparer les ordures. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous devenez, c'est pas juste, OK, je fais mon paquet d'ordures, je le jette et j'y pense plus. Il faut trier, il faut nettoyer le plastique, il faut organiser, il faut écraser les bouteilles d'eau pour qu'elles prennent pas trop de volume. Donc c'est tout un travail où on se rend compte le nombre affolant d'ordures qu'on produit en tant que résident ou que citoyen. Et donc même si c'est un peu trivial et c'est lié aux ordures, je trouve qu'en fait c'est un très bon exemple de ce qui se passe dans la société taïwanaise.
C'est parti pour la cloche des camions poubelles taïwanais. Merci beaucoup, Philippe Nouvel.
Merci à vous.